Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Parents Informés. Je suis Charline, la créatrice de ce podcast qui a pour vocation d'offrir aux parents et futurs parents de l'information sur la grossesse, la petite enfance et l'enfance sous forme de conversations détendues avec des intervenants spécialisés. Merci à vous tous qui écoutez et merci pour vos messages. Si vous aimez ce podcast, parlez-en autour de vous et abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute telle que Spotify ou Apple Podcast pour ne pas manquer la sortie des nouveaux épisodes. Laissez des commentaires et des étoiles si votre plateforme le permet pour dire pourquoi vous aimez ce podcast. Et si vous êtes sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook, venez vous abonner aux pages du podcast, mettre des commentaires et partagez-le avec le @ suivi de parents informés. Toutes ces actions sont vraiment essentielles pour que ce podcast continue de grandir. Pour ce 20e épisode, je reçois Sandra Menoni, consultante en sommeil formée et certifiée aux États-Unis. Après plusieurs années en tant que directrice financière et suite à sa rencontre avec Juliette Moudoulot de l'entreprise Fait de Beaux Rêves, avec qui nous avons fait les épisodes 8 et 9 sur le sommeil et les réveils nocturnes des enfants, elle décide de se reconvertir et crée l'entreprise La Nuit des Petits pour aider à son tour les familles à comprendre le sommeil des bébés et retrouver des nuits apaisées. Dans cet épisode, elle va nous donner des informations essentielles pour apprendre à accompagner le sommeil des bébés dès la naissance, ainsi que les évolutions au fil des mois. Elle nous détaillera les besoins des bébés, leur compréhension du cycle jour-nuit et l'importance de l'observation de leur comportement pour mieux les aider. Elle nous expliquera les changements des phases du sommeil, ainsi que les différentes périodes de régression potentielles, souvent liées à des apprentissages psychomoteurs majeurs tels que le retournement, la marche, mais également l'angoisse de séparation ou le terrible tout. Enfin, elle nous proposera des clés pour leur apprendre à s'endormir de manière autonome, étape indispensable vers des nuits sereines. J'espère que cet épisode vous plaira et vous souhaite une belle écoute. Bonjour Sandra.
Bonjour Charline.
Et merci d'avoir accepté de participer au podcast. Avec toi, on va parler du sommeil des bébés, vaste sujet. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous présenter qui tu es, quel est ton métier et comment t'en es venue à faire ce métier ?
Avec grand plaisir. Ben, merci tout d'abord pour l'invitation. C'est un grand plaisir pour moi de faire ce podcast avec toi aujourd'hui. Alors, je suis consultante du sommeil de l'enfant pour les enfants de 0 à 6 ans. Ça n'a pas toujours été mon métier. Auparavant, j'étais directrice financière. Donc, tu vois, absolument rien à voir dans le métier de la petite enfance. Et à l'arrivée de mon bébé, j'ai connu un vrai tsunami d'émotions et je me suis rendu compte que je n'étais plus à ma place dans l'univers de l'entreprise. Et j'ai commencé beaucoup à m'intéresser à tous les sujets autour de la parentalité. Je savais dans mon fort intérieur que j'avais envie d'accompagner les parents parce que j'ai trouvé un vide immense quand je suis rentrée en fait de la maternité et que je suis devenue maman. Je me suis sentie parfois seule et je ne savais pas vers qui me tourner. Et c'est pour ça que j'ai commencé à m'intéresser à tous les sujets de la parentalité, de l'éducation. Et j'avais moi-même des difficultés, surtout pour le sommeil.
D'accord.
Et quand mon fils avait 8 mois et demi, et qu'il ne dormait pas. Il se réveillait toutes les 30 minutes, toute la nuit. Donc, c'était vraiment... C'est énorme. Donc, tu vois, la fatigue, déjà, tu comprends pas ton bébé. Toi-même, en tant que maman, t'es vraiment en manque d'énergie. Tu peux pas l'accompagner au mieux au quotidien. Et je me suis dit, c'est pas possible d'être dans une phase de fatigue extrême. J'avais 8 de tension, c'était vraiment très difficile. Et j'ai commencé à chercher une solution. Je me suis dit, c'est pas possible. J'ai commencé à m'inquiéter. Je me dis, il dort pas, il va bientôt avoir 9 mois. Et j'ai cherché une solution comme ça sur Internet. J'étais complètement démunie. Et je suis tombée sur une approche qui s'appelle Sleep Sense, qui est une approche américaine qui est très populaire aux États-Unis et au Canada et qui commence en France depuis plusieurs années. Et j'ai cherché une consultante en sommeil. Je me suis dit, c'est dingue, il existe des consultantes en sommeil. Et j'ai appelé cette consultante-là qui s'appelle Juliette. Coucou Juliette.
Et du coup, Juliette fait de beaux rêves.
Qui est Juliette Faites-Beaux-Rêves, qui est la toute première à avoir importé cette approche des États-Unis et qui m'a accompagnée sur le chemin des nuits sereines pour mon bébé, pour moi, pour toute la famille. Ça a été une révélation. On a beaucoup échangé avec Juliette et je le remercie par ailleurs. Et j'ai décidé moi-même de quitter mon boulot, de me former aux États-Unis et en plus de ça, de me former à la petite enfance parce que je suis aujourd'hui diplômée donc du CAP accompagnant éducatif petite enfance. Donc ça a été une vraie révélation, un grand cheminement pour moi et ça fait maintenant un an que j'accompagne les familles. J'ai accompagné plus de 130 familles aujourd'hui. J'en suis vraiment ravie. C'est un métier très gratifiant et je peux à mon tour rendre l'appareil et aider les familles qui en ont besoin pour retrouver des nuits sereines et les aider à comprendre les mécanismes du sommeil. C'est une vraie chance de pouvoir faire ce métier-là et de voir qu'on a un vrai impact auprès des familles. C'est très gratifiant au quotidien.
Je veux bien croire. Je connaissais pas du tout ce métier-là et j'ai découvert ça quand j'ai lancé le podcast et que j'ai cherché des informations. Et on a fait d'ailleurs 2 épisodes avec Juliette sur le sommeil des enfants. Alors on a fait la partie sur les enfants un peu plus grands, donc à partir de 1 an, 18 mois.
C'est vraiment passionnant comme sujet et surtout il y a tellement peu d'informations aujourd'hui. On est très vite dépassé.
On ne sait plus quoi faire.
On ne sait plus quoi faire. Et très souvent, ce que me disent les parents quand ils m'appellent, c'est « j'ai tout essayé, il n'y a rien qui fonctionne. Pourquoi mon bébé ne dort pas ?» Et donc, c'est là qu'on intervient. On est une petite dizaine en France à faire ce métier. Et c'est vraiment super parce que aujourd'hui, on a les connaissances, les sciences nous permettent d'accompagner les parents au mieux et de leur expliquer quels sont vraiment les besoins de l'enfant en termes de sommeil et c'est ça qui change tout.
C'était d'ailleurs ma première question. Pourquoi est-ce que c'est si difficile pour les parents d'appréhender le sommeil des bébés ?
Mais tout simplement parce qu'on n'a aucune information. Que ce soit pendant la grossesse, que ce soit à la maternité. Donc à la maternité, on te dit voilà comment tu dois donner le bain à ton bébé, voilà tu dois lui donner à manger, soit tu lui donnes le biberon toutes les 3 heures, soit tu lui donnes le sein à la demande. Mais personne ne te dit voilà le sommeil, comment ça fonctionne, quels sont les besoins d'un nouveau-né. Donc on est très très vite perdu parce que si on ne connaît pas bien les besoins de son bébé, on ne peut pas répondre vraiment à son besoin. Et si bébé manque de sommeil, très vite il se met à pleurer énormément. Et là c'est une grande source d'inquiétude parce qu'on n'arrive pas à accompagner son bébé vers un sommeil apaisé. Donc vraiment le rôle de la consultante en sommeil, c'est d'accompagner les jeunes parents pour comprendre les mécanismes du sommeil. Et comme ça, favoriser un sommeil de qualité pour toute la famille. Ça devient simple quand on connaît. Mais je ne sais pas si tu le sais, mais chaque bébé, quand il naît, il a un temps d'éveil qui est limité. C'est un peu son autonomie, c'est sa batterie.
C'est sa batterie, sa capacité, quoi.
Exactement. Un nouveau-né, ça dort entre 16 et 20 heures par jour. C'est énorme. Ouais,
moi, l'information dont je me souviens, c'est celle-là. Votre nouveau-né, il va dormir entre 16 et 20 heures par jour, comme si c'était une évidence qu'il allait dormir autant de temps.
Exactement, exactement. Alors que toi, tu sais pas, tu es hyper excité d'avoir ton bébé, tu veux le présenter à la famille, donc tu peux le maintenir en éveil 2 ou 3 heures, et après, ça fait un bébé qui pleure beaucoup, beaucoup le soir, et tu sais pas comment l'arrêter.
Puis on t'a dit, il va dormir votre bébé pendant 16 à 20 heures par jour. Donc tu te dis, c'est évident qu'il va s'endormir.
Oui, c'est sûr, c'est sûr. Alors que si on ne le pose pas au bon moment, le nouveau-né, il se trouve en état de surstimulation, surexcitation. Et du coup, l'endormissement, il devient difficile. Un bébé, ça a une capacité à la naissance, ça a une capacité d'éveil de 45 minutes à 1 heure.
D'accord.
C'est tout petit. C'est vraiment très court. Donc du coup, tu as à peine le temps de lui donner la tétée ou le biberon. Tu fais un tout petit peu d'éveil et finalement, c'est déjà l'heure de le reposer et de le mettre dans son berceau pour qu'il dorme ou contre toi, etc. Ouais.
Donc au début, quand ils sont tout petits, il faut respecter ça, c'est-à-dire 3 quarts d'heure, 1 heure maxi d'éveil. Et après, exact. On se pose au calme, soit avec lui, soit tout seul, s'il s'endort tout seul, pour qu'il puisse récupérer.
Exactement. C'est exactement
et il dort combien de temps au début ? Par cycle de combien ?
Ça dépend. Ça peut être 30 minutes à 3-4 heures. Ça va dépendre vraiment des bébés.
Okay.
La chose qu'on doit savoir, c'est que les enfants, à la naissance, ils dorment indifféremment, que ce soit le jour ou la nuit.
Ils ne savent pas faire la différence.
Non, parce qu'ils n'ont pas encore l'horloge biologique interne qui est intégrée. Donc, ce qu'on appelle le rythme circadien, qui est l'alternance jour-nuit, elle n'est pas présente chez les nouveau-nés. En fait, c'est lié à la maturité du cerveau. Donc, il y a une région dans le cerveau qui s'appelle l'hypothalamus, qui régit cette horloge biologique interne. Et cette horloge se met en place à partir de la 6e semaine de vie, quand l'enfant est né à terme.
Oui, donc c'est pas tout de suite, tout de suite. C'est normal qu'il ne sache pas faire la différence, quoi.
Exactement. C'est pour ça qu'il a des plages qui sont à peu près réparties comme ça tout au long du jour ou de la nuit et qui peut se réveiller très fréquemment au démarrage pendant la nuit.
Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place, nous, en tant que parents, pour l'aider à appréhender ces cycles jour-nuit ? Ou est-ce que de toute façon, tant qu'il n'a pas atteint ces 6 semaines, il n'y a rien à faire et il ne peut pas comprendre la différence entre les deux ?
Alors, on peut tout à fait le faire avec la lumière. L'horloge biologique, elle se met en place grâce à 2 hormones qui sont la mélatonine, qui est l'hormone de nuit, et le cortisol, l'hormone du jour. Progressivement, donc ce n'est pas encore en place chez les nouveau-nés, mais progressivement, à partir de 6 semaines, ça va se mettre en place. Ce que vous pouvez faire quand vous êtes jeune parent, c'est mettre en place un cycle de 12 heures. Pendant 12 heures, c'est la nuit, et pendant 12 heures, c'est le jour. Par exemple, à partir de, on va dire, 20 heures, c'est la nuit. Donc là, on va tamiser les lumières, parler plus doucement, essayer d'avoir le moins d'interaction avec son bébé de manière très neutre, pas trop de stimulation gousi-gousi pendant la nuit. Vraiment être assez calme, neutre, pour vraiment favoriser le retour au calme pendant la nuit. Et la journée, en revanche, lumière, les siestes, pas totalement dans le noir. Vous pouvez emmener bébé faire des siestes à l'extérieur, donc que ce soit en portage ou en poussette, comme vous voulez. Et là, ça aura pour objectif de stimuler son corps grâce à la lumière qui envoie un signal lumineux dans l'œil et qui envoie le signal au cerveau que c'est le jour. Donc ça, c'est l'astuce, c'est de dire pendant 12 heures, c'est la nuit et pendant 12 heures, c'est le jour. Donc là, on peut faire du bruit, on peut stimuler son enfant sans aucun souci.
D'accord, ok. À partir de quel âge on estime qu'un enfant, il peut commencer à s'endormir tout seul ou en tout cas qu'on peut l'accompagner pour apprendre à s'endormir tout seul ?
Eh bien, c'est une excellente question. Et ça, c'est possible dès la naissance.
D'accord.
Parce que in utero, bébé se réveille et s'endort à sa guise. Il sait dormir. Alors bien sûr, in utero, il est aidé parce qu'il y a des bruits blancs, parce qu'il y a le balancement, il est bercé dans le ventre de sa maman. Mais quand il naît, on va essayer de lui recréer un peu ce même environnement-là. Un bébé qui naît, qui est en bonne santé, il peut être posé au bon moment. Si vous le posez au bon moment en veillant à ce que le temps d'éveil soit pas trop long, vous le posez dans son lit, il s'endort tout seul.
Quand tu parles du bon moment, comment on identifie ce bon moment chez un bébé ?
Le bon moment, c'est déjà de regarder un petit peu l'heure, de se dire, ça fait 45 minutes, comment se comporte mon bébé ? Est-ce qu'il commence à avoir les arcades sourcilières rouges, les paupières très rouges ? Ça, c'est très reconnaissable chez les nouveau-nés. Il commence à chouiner, alors qu'il a mangé. Ça, c'est des signes qui commencent à être agacés. Il a le regard un peu dans le vide, il vous regarde plus. Donc ça, c'est des signes qui interpellent et qui vont vous indiquer que c'est le moment d'aller le coucher. Mais au tout démarrage, si bébé a bien mangé, qu'on a fait un petit temps d'éveil, après, c'est très vite l'heure d'aller le coucher.
Oui, ça arrive très vite, en fait.
Oui, très, très vite.
Et du coup, à partir de quel âge ça commence à se passer, ces trois quarts d'heure, une heure-là ?
Assez progressivement, à peu près vers 3 mois, les enfants, ça sera à peu près autour d'une heure et demie d'éveil. Donc, ça se fait assez progressivement. Il faut vraiment observer son bébé pour l'accompagner au mieux. Voilà, c'est assez progressif. Hein. Il n'y a pas un timing qui est précis pour chaque bébé en fonction de l'âge. C'est une moyenne. Si je dis à 3 mois, il y a des bébés qui, au bout d'une heure, sont encore fatigués, il faut déjà les poser. Et puis d'autres, c'est 1h30, voire 2h. Donc, c'est vraiment une moyenne. Et c'est toujours en observant son bébé qu'on va apprendre à décoder les signaux de fatigue pour pouvoir le poser au bon moment. Si vous posez votre bébé dans son lit au bon moment, dès la naissance, vous avez de grandes chances de l'accompagner vers un endormissement autonome. Donc, bien sûr, ça, c'est en théorie, mais bien sûr, parfois, oui. L'enfant, il est déjà trop stimulé, donc il est trop fatigué, donc il pleure beaucoup. Donc, on va le prendre sur soi, on va essayer de le calmer. Le portage, c'est très bien. D'ailleurs, jusqu'à 2 mois, je recommande beaucoup le portage parce que ça permet aux enfants d'être sécurisés, de prolonger ce qu'on appelle le quatrième trimestre. C'est porter son bébé tout près de son cœur, à portée de bisous. Ça favorise la création de ce lien d'attachement qui est vraiment très important. Donc, c'est bien aussi d'alterner les modes de couchage, soit contre soi, soit dans son lit. C'est bien de faire les deux.
On n'est pas obligé de faire que l'un ou que l'autre. On peut alterner les deux, ça ne va pas le perturber.
Exactement. Surtout quand ils sont tout bébés, ils ont énormément besoin de contact. Donc, jusqu'à 2 mois, sans aucun souci, on peut alterner les modes de portage et les modes de sieste. En revanche, à partir de 3 mois, quand vous êtes à la maison, c'est bien qu'il y ait un seul espace de dodo. Donc là, c'est vous qui choisissez. Mais si avant, vraiment tout bébé, ils peuvent être posés partout, dans un couffin, au sol, dans le salon ou dans le transat, ils dorment. C'est assez facile parce qu'ils ne sont pas du tout gênés par le bruit. À partir de 3 mois, ils commencent à avoir un sommeil qui est différent et ils ont besoin de plus de calme.
Au final, à partir de 3 mois, ils commencent vraiment à s'éveiller et du coup, quand il y a de l'agitation autour, ils n'ont pas envie de trouver le sommeil, ils ont envie de participer à ce qui se passe autour.
Exactement, tu as tout à fait raison. C'est pour ça qu'il faut vraiment créer un petit sanctuaire de dodo, vraiment un cocon pour les enfants, pour qu'ils puissent retrouver ce calme propice à l'endormissement et à l'apaisement.
Ok. Est-ce que si à un moment donné, on se retrouve avec un enfant, disons vers 3-4 mois, qui n'enchaîne pas plus de 30 minutes de sommeil à chaque fois. Mmh. Est-ce qu'il y a des possibilités de leur apprendre à réenchaîner les cycles ?
Absolument. Là, la première chose, c'est l'endormissement autonome. Un enfant qui s'endort seul, c'est-à-dire sans l'aide parentale, sans besoin d'être bercé ou d'être nourri pour s'endormir, il aura tendance à enchaîner plus de cycles de sommeil seul. Donc ça, c'est la première chose parce que effectivement, quand ils sont tout bébés, ils ont des cycles très courts, en moyenne 45 minutes, voire 30 minutes aussi. Donc, ils peuvent, au bout d'un cycle, se réveiller. Donc, si je m'endors en étant dans les bras de papa ou maman et que je suis posée dans le lit et au bout de 30 minutes, je me réveille, là, je vais avoir besoin de l'intervention parentale pour me rendormir. Si je sais m'endormir seule, c'est-à-dire je suis conscient que je suis posée dans mon lit, j'apprivoise ma phase d'endormissement et je m'endors tout seul, même en étant accompagnée, hein, ça veut dire qu'il peut y avoir la présence du parent, mais si je m'endors seule dans mon lit, je sais en me réveillant au bout de 30 à 45 minutes que je suis dans mon lit et si je suis encore fatiguée, je vais pouvoir peut-être enchaîner un autre cycle de sommeil. Cette compétence au sommeil, elle est vraiment fondamentale pour tous les enfants, quel que soit leur âge. Après, il y a les conditions aussi, l'environnement de la chambre qui sont importantes. À partir de 3 mois, je recommande, quand l'horloge biologique est en place, que l'alternance jour-nuit, elle est bien en place, de faire le noir total dans la chambre. Parce que quand il fait noir total, même pour les siestes, et ben entre deux cycles, je vais me réveiller, ok, il fait noir, bon bah finalement je suis encore un peu fatiguée, donc je vais pouvoir me rendormir. Donc le fait qu'il fasse noir, ça peut favoriser le fait de te rendormir assez naturellement, assez spontanément.
Donc en fait, ce que tu dis, c'est que le fait de laisser un peu de lumière pour les siestes, c'est uniquement jusqu'à ce qu'ils aient appréhendé la différence jour-nuit. Une fois qu'ils ont appréhendé cette différence jour-nuit, pour les siestes, on les met quand même dans le noir total pour que s'ils ont envie de se rendormir, ils ne soient pas stimulés par la lumière à ce moment-là et qu'ils puissent se rendormir.
Absolument.
Ok. Et endormissement autonome, je reviens dessus pour être sûre d'avoir bien compris. Quand tu parles d'endormissement autonome, ça ne veut pas dire seul dans sa chambre, ça veut dire dans son lit et potentiellement accompagné avec un parent à côté s'il y a besoin, mais dans son lit.
Exactement.
Est-ce que dans l'évolution de bébé, il y a des phases de régression classiques? Par exemple, dans le développement de l'enfant, on sait qu'il y a des phases, la phase de séparation, la phase d'apprentissage à se retourner. Il y a des choses comme ça, on sait, dans leur phase de développement. Est-ce que dans les phases d'apprentissage du sommeil, il y a aussi ces phases-là de phases plus propices ou moins propices à l'apprentissage du sommeil et des phases où on sait que potentiellement ils peuvent régresser et que c'est lié aussi à l'âge et à ce qu'ils vivent?
Alors, il y a plein de choses à dire sur les régressions. La première chose, c'est qu'il faut distinguer le sommeil des nouveau-nés du sommeil des bébés de plus de 4 mois, 3-4 mois. À la naissance, les nouveau-nés ont un cycle dit biphasique en deux phases. Donc, ils alternent des phases de sommeil agité et des phases de sommeil calme. Donc, deux phases. Dans les phases de sommeil agité, le bébé peut pleurer, ouvrir les yeux, bouger les membres, faire des grimaces ou sourire aux anges. Tu sais, le sourire aux anges quand les bébés pleurent. Donc ça, c'est les phases de sommeil agité. Et en phase de sommeil calme, c'est le sommeil profond. Donc ça, ils dorment vraiment comme des bébés. Donc ça, c'est important de comprendre qu'il y a une alternance de phases, donc le sommeil agité, le sommeil calme, pour pouvoir bien observer son bébé. Si on sait qu'il y a une phase de sommeil agité, si au bout de 30 minutes, par exemple, on voit que bébé commence à grimacer, à gémir, un petit peu pleurer de manière faible, modérée, observez votre bébé. Regardez-le. Il est probablement dans une phase de sommeil agité. Si on intervient trop vite, parce qu'on nous dit « Oh là là, on m'a dit qu'il ne fallait pas laisser pleurer un bébé parce que c'est très dangereux pour le développement de son cerveau. » C'est vrai, on ne laisse pas pleurer les bébés. En revanche, on les observe. Donc, apprendre à regarder son bébé. Si vous voyez que votre bébé, il est agité, qu'il pleure, mais qu'il ne vous regarde pas, si vous n'avez pas ce contact visuel avec lui, c'est probablement qu'il est encore dans une phase de sommeil agité. Et là, en lui offrant quelques minutes pour pouvoir enchaîner la deuxième phase qui est le sommeil calme, probablement vous allez lui offrir cette autonomie et vous allez favoriser l'apprentissage d'un sommeil autonome. Si on intervient trop vite, alors qu'il a changé de cycle de sommeil et qu'il est de nouveau dans une phase de sommeil agité, on va se précipiter sur lui, on va se dire « Oh là là, mon bébé pleure, vite, je le prends. » Vous n'allez pas répondre à son besoin de sommeil, mais au contraire, vous allez peut-être le réveiller. Et là, en le réveillant, soit on va avoir tendance à le nourrir, ou soit on va avoir tendance à le bercer pour qu'il se rendorme, parce que là, du coup, il se met à pleurer beaucoup. Donc ça, c'est vraiment apprivoiser le sommeil de son nouveau-né. C'est vraiment extrêmement important parce que ça vous permettra d'anticiper sur la phase de développement future, parce que son cerveau évolue pendant toute la petite enfance, hein, bien sûr. Les 3 premières années de vie, le cerveau se développe à une vitesse incroyable et il va faire des apprentissages qui seront incomparables avec le reste de sa vie. Donc vraiment, c'est très important d'observer son bébé pour mieux le comprendre.
D'accord.
Pourquoi je raconte tout ça? Parce que à partir de 3-4 mois, donc le sommeil évolue, le cerveau évolue et là, les cycles de sommeil qui étaient en deux phases deviennent à peu près comme ceux de l'adulte et passe à 4 phases. Donc là, les 2 phases nouvelles sont la phase d'endormissement, la phase de sommeil lent léger, ensuite on a la phase de sommeil lent profond et la phase de sommeil paradoxal, celui des rêves. Là, c'est la première phase vraiment qu'on appelle la régression des 4 mois, qui n'est pas en soi une régression, mais plutôt une évolution des cycles du sommeil, qui veut dire que bébé grandit, et donc ça, c'est une très très bonne chose. Cette phase, elle est très importante à comprendre et à connaître. Quand on ne connaît pas l'origine de cette régression, on peut être surpris ou inquiet de voir que bébé dormait hyper bien autour de 2-3 mois et à l'approche des 4 mois, il commence à pleurer, il pleure et puis il se réveille hyper fréquemment pendant la nuit et puis il chouine et puis on comprend pas ce qu'il a, on se dit oh là là c'est grave, qu'est-ce qu'il a mon bébé, et en fait toutes les 45 minutes il change de cycle. Donc toutes les 45 minutes, il va avoir un micro-réveil. Et encore une fois, il faut écouter son bébé. Parce que lors de ce micro-réveil, ce qu'on appelle aussi un éveil partiel, les enfants sont partiellement endormis, partiellement réveillés. Ils peuvent s'agiter, pleurer. En général, c'est plutôt des gémissements, des pleurs faibles à modérés. Mais il y en a qui peuvent crier une minute ou deux et pouf, ils se rendorment. Parce qu'ils ont réussi à enchaîner un cycle suivant. Donc ça, c'est une chose à savoir. C'est que la nuit, pour les enfants, pour les adultes, c'est la même chose. C'est une succession de cycles de sommeil qui s'enchaînent. Et à chaque cycle de sommeil, il y a un micro-réveil. Donc, pour les bébés, on va dire à peu près toutes les 45 minutes. Pour les adultes, c'est toutes les heures et demie à 2 heures.
Ouais.
Donc, même nous, en tant qu'adultes, on fait 3 à 5 réveils par nuit.
On ne se souvient pas forcément.
On ne se souvient pas forcément. Pourquoi ? Parce qu'on a acquis cette compétence au sommeil depuis tout bébé et qu'on l'a pratiquée des milliers de fois depuis qu'on était, tout jeune. Donc, c'est un automatisme. Et pour les enfants, c'est là où on parle d'apprentissage parce que c'est quelque chose qui doit se faire avec le temps. Donc, si on leur offre l'opportunité de le faire seul, tout en étant à ses côtés, bien sûr, en l'écoutant, on favorise son autonomie et plus vite il saura le faire seul et plus vite il pourra appréhender son sommeil, ses phases d'endormissement et en conséquence faire ses nuits.
D'accord, ok.
Donc ça c'est la première phase majeure et vraiment liée au sommeil, c'est vraiment la régression des 4 mois. Après, il y aura toute une série de facteurs qui vont perturber le sommeil. Toutes les phases de développement moteur de l'enfant, par exemple, ou psychologique, vraiment émotionnel, comme l'acquisition du retournement, je me retourne dos, ventre, ventre, dos. Ça, c'est des phases de développement moteur intense, et du coup, il y a une activité cérébrale qui est intense, y compris pendant la nuit. Ce que je dis souvent aux parents, c'est que la nuit, c'est le corps est au repos, mais en fait, le cerveau est hyperactif. Et pendant la nuit, pendant un réveil nocturne, l'enfant peut se mettre à s'exercer parce que c'est son cerveau qui lui commande. Il va lui dire, j'ai commencé à développer une nouvelle compétence, donc vite, 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 je m'entraîne. C'est inconscient et ils le font spontanément. Donc, encore une fois, je dis aux parents, écoutez-le. Si vous entendez bébé pleurer d'une certaine façon, peut-être qu'il est coincé sur le ventre et qu'il est très énervé parce qu'il n'arrive pas à se retourner, bien sûr, vous intervenez, vous le retournez et il pourra se rendormir tout seul. Donc, toutes les phases s'accompagnent. Donc, il y a aussi la phase d'angoisse de séparation autour de 8-9 mois où là, effectivement, il peut être...
Oui, il peut être plus demandeur de notre présence.
Ouais, exactement, parce que il comprend finalement que c'est un individu à part entière et que sa maman, elle n'est pas en fusion avec lui constant. Donc souvent, les bébés pleurent quand la maman sort de la chambre, etc. C'est une phase où ils sont très en demande de portage, de contact. Donc il faut beaucoup travailler la séparation. En faisant du jeu, par exemple, du cache-cache derrière une petite couverture ou juste derrière la porte, montrer « je suis là, je suis plus là ». Donc là, ça lui permet de comprendre que même si maman n'est pas dans le champ de vision, elle réapparaît toujours, elle n'est pas loin. Donc il y a ça. Ensuite, à 12 mois, il y a l'acquisition de la marche. Encore une fois, ça peut perturber le sommeil, non pas le sommeil lui-même, mais parce qu'il a une activité cérébrale qui est intense, pour toutes les phases de développement, ça sera le cas. Il y a aussi 18 mois, la période qui commence, qu'on appelle la phase du terrible two, tu as dû entendre parler.
Oui, on a fait un épisode là-dessus.
Ah ouais, bah, génial, c'est super, mais pareil, si on ne connaît pas le développement de l'enfant, on peut être surpris parce qu'on voit que ça commence l'opposition, l'enfant commence à affirmer sa personne, à être un petit peu dans l'opposition. Donc, ça peut être des grandes périodes de développement de l'enfant qui peuvent perturber momentanément le sommeil. Mais à chaque fois, le dénominateur commun, c'est que si l'enfant sait s'endormir seul, il passera ses étapes assez facilement, en fait. Ça peut être une ou deux nuits un peu plus difficiles où il y aura des réveils nocturnes plus fréquents, mais liés à l'activité de son cerveau. Et puis finalement, peut-être qu'il aura besoin d'un peu de réassurance et il se rendormira aussitôt. Et puis à 2 ans, tu as l'acquisition du langage, et après tu as la propreté et ainsi de suite. Le sommeil, pour qu'il soit vraiment équivalent à celui de l'adulte, ou en tout cas presque, c'est aux alentours de 6 ans que ça se stabilise. Donc, il y a un sacré chemin pour accompagner nos enfants vers un sommeil de qualité.
Ok. Est-ce que... Vas-y, dis-moi.
J'allais dire qu'il y a d'autres phases de petites régressions qui peuvent être intrinsèques à l'enfant, comme des maladies infantiles. Il va avoir une poussée de fièvre, on va faire un vaccin, il va avoir une rhino, il va être hospitalisé. Tout ça aussi fait qu'il peut avoir un sommeil de moins bonne qualité. Mais au final, nous aussi, quand on est malade, on a un sommeil de moins bonne qualité.
Finalement, je trouve qu'on se pose moins la question quand nos enfants sont malades. On comprend plus facilement pourquoi ils ont des difficultés de sommeil à ce moment-là.
Exactement.
Que finalement, quand tout va bien et que là, on ne comprend pas.
Exactement.
Je me souviens aussi quand on part en vacances.
Oui.
Le fait de changer de lieu et
exactement.
De changer nos habitudes aussi, parce que finalement, on n'a plus le même rythme, il n'y a plus soit la crèche, soit la nounou. Et souvent, ça a été des phases de régression du sommeil pour prendre ses marques dans ces nouveaux lieux quand on part en vacances.
Absolument. Les grandes périodes comme ça de transition, que ce soit les vacances, que ce soit l'entrée en crèche avec la nounou, il y a toujours une phase d'adaptation. Ce qui rassure les enfants, c'est essayer de conserver un rythme et un rituel de qualité, surtout le soir, parce que c'est le moment où ils ont besoin de retrouver cet apaisement et de remplir ce qu'on appelle le réservoir affectif pour pouvoir se séparer en douceur. La nuit, c'est une séparation. Donc, il faut absolument passer un moment de qualité avec son bébé pour être sûr qu'on l'a mis dans de bonnes conditions. Si nous, on est dans de bonnes dispositions, bébé sera plus apaisé ou en tout cas lâchera prise plus vite. Et c'est ce qui lui permettra de s'endormir plus facilement.
Ça marche. J'avais des questions pour toi sur les différents dispositifs pour faire dormir les bébés.
Mm-hmm.
Alors, il y a plusieurs choses. Il y a l'endroit où on les fait dormir, c'est-à-dire est-ce qu'on les fait dormir dans notre chambre, avec nous, pas avec nous, en co-sleeping, en co-dodo. Voilà, quels sont les différents termes et à quoi ça correspond? Et puis après, il y a les différents dispositifs aussi. Est-ce que les lits à barreaux, les lits au sol, etc. Est-ce qu'il y a des règles à respecter dans chaque cas? Voilà. Est-ce qu'on peut faire un petit tour d'horizon de toutes les possibilités?
Alors, les recommandations internationales aujourd'hui, c'est le partage de chambre jusqu'aux 6 mois de l'enfant minimum. Tout ça pour limiter les risques de mort inattendue du nourrisson. On s'est aperçu, les études ont prouvé que le fait de partager la chambre avec le parent, c'était un facteur protecteur de mort inattendue du nourrisson. Donc ça, c'est la première chose. C'est ce qu'on appelle le cododo. Mais dans le cododo aussi, on parle de partage de lit, qui est le co-sleeping.
Oui, cododo et co-sleeping, c'est pas tout à fait la même chose. Il y en a un, on partage la chambre, mais le bébé a son lit à côté du lit des parents.
Exactement.
Et le co-sleeping, c'est le bébé, il dort dans notre lit.
Exactement. En fait, dans le cododo, on englobe les deux, partage de chambre ou partage de lit. Là, c'est vraiment un choix parental, personnel. Il faut simplement adapter les mesures de sécurité. Moi, je vous ai dit les recommandations internationales, c'est chacun dans son espace de sommeil. Donc, un berceau pour l'enfant, un lit pour les parents. Maintenant, ceux qui veulent faire du co-sleeping, il ne faut pas d'oreiller. pas de couette, vraiment pour éviter les risques d'étouffement. Voilà, c'est un choix personnel. Il y a des parents qui vont aimer ça et ça va avec les charmes du co-sleeping. Souvent, ils le font pendant des mois, voire plusieurs années. C'est un choix personnel.
Oui, ou des fois, ça, c'est une phase au début et puis après, ça passe. Typiquement, je sais que j'ai voulu avoir mes enfants dans la même chambre que moi. Et puis à partir d'un certain stade, en fait, souvent vers 4-5 mois, j'en arrivais à une phase où je me dis « Non, mais en fait, là, j'en ai marre de l'avoir tout le temps à côté de moi. Il a l'air de plutôt bien s'en sortir tout seul, donc on va tenter de le déménager, quoi. »
Exactement. C'est exactement ça. Il faut le faire quand on est prêt, en fait.
Ce qui ne m'empêche pas de temps en temps d'aller dormir dans leur lit quand elles n'arrivent pas à dormir, mais...
c'est un choix personnel. Moi, je donne les recommandations internationales. Oui. Donc, c'est partage de chambre jusqu'aux 6 mois, minimum. Après, il y a des mamans, il y a des parents qui vont vouloir mettre l'enfant dans sa chambre dès le retour de la maternité parce qu'ils sont gênés par les bruits de leur nouveau-né tout au long de la nuit. Un bébé, quand ça dort, c'est extrêmement agité, comme on l'a dit tout à l'heure. Ça fait beaucoup de bruit, donc on peut moins bien dormir. Donc, il faut simplement en parler. Il faut que les deux parents soient OK avec la décision. Et après, c'est un choix personnel. Donc, vraiment... Il faut simplement que bébé ait un lit à sa taille. Moi, je recommande vraiment, dans les premières semaines de vie, un couffin ou un berceau, parce que c'est un petit lit, ça fait vraiment un cocon pour l'enfant. Les enfants aiment bien toucher les parois, souvent ça les rassure, le fait de toucher les parois du lit. Donc, le fait d'avoir un petit lit adapté, ça leur permet d'être rassurés. Après, au-delà de 3 mois, donc soit un plus grand berceau, soit un lit à barreaux qui soit de bonne qualité avec un matelas ferme, absolument rien dans le lit, pas de tour de lit, pas de mobile, pas de ciel de lit, absolument rien qui pourrait être dangereux pour l'enfant. Avant 12 mois, on ne met rien dans le lit, si ce n'est un doudou, mais quand l'enfant est plus grand, aux alentours de 7-8 mois, quand il y a justement l'angoisse de séparation, ça peut être intéressant d'intégrer un doudou à ce moment-là. Mais sinon, absolument rien. Après, le choix de dormir dans la même chambre ou séparé, c'est vraiment personnel.
Est-ce qu'on peut mettre un bébé dans un lit au sol dès le début? Ou est-ce que ce n'est pas forcément recommandé?
Moi, mon avis, souvent, de temps en temps, j'ai des mamans qui me disent « Mon bébé est dans un lit au sol ». Ça peut fonctionner sur certains enfants, mais ce n'est pas franchement recommandé. Pourquoi ? Parce que avant 2 ans, les bébés vont sortir du lit et ne vont pas comprendre pourquoi ils doivent rester dans leur chambre, dans leur lit. D'accord ? À partir de 1 an et demi, 2 ans, on peut leur expliquer pour dormir, il faut vraiment que tu restes dans ton lit. Tu ne dois pas sortir de ton lit. Ils comprennent des consignes simples. Avant 2 ans, ils n'ont pas la maturité cérébrale pour le faire. Moi, je ne recommande pas les lits au sol. Vraiment avant minimum 1 an et demi, voire plutôt 2 ans. Pourquoi ? Parce que c'est une question de sécurité. J'ai une maman que j'ai accompagnée récemment. La première chose qu'elle m'a dit, c'est mon bébé a 13 mois et la nuit dernière, j'ai entendu du bruit dans ma cuisine et en fait, il s'était levé, il était dans la cuisine. Donc, il pleurait pas, hein, mais il s'était levé, il était dans la cuisine. Donc, on comprend et on est d'accord sur le principe que la nuit, on doit rester dans son lit et on ne doit pas en sortir. Donc, le fait de mettre un lit à barreaux ou voir un lit parapluie de très bonne qualité pour avoir ce côté matelas au sol, ça peut être une bonne idée, une bonne alternative. L'objectif, c'est d'avoir un cocon sécurisé pour l'enfant, qui ne puisse pas en sortir, et sécurisant, parce que le fait d'avoir des parois, ça devient son petit monde à lui, son cocon. Donc, je ne recommande pas forcément les lits au sol trop jeunes, en tout cas, pour des raisons évidentes de sécurité.
Qu'ils soient en âge de comprendre qu'il y a des choses auxquelles ils ne peuvent pas accéder et qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire.
Voilà, exactement. Mais ça arrive. Parfois que si les enfants ne sortent pas de leur lit, parfois j'accepte de faire des accompagnements, mais j'ai toujours, voilà, je, Je préviens les parents qu'il faut que ce soit un endroit sécurisé, il faut que ce soit vraiment au sol et qu'ils ne sortent pas de leur lit, qu'il n'y ait pas d'escalier, que vraiment tout soit plat, qu'il n'y ait rien qui traîne au sol pour leur sécurité tout simplement.
Ok, je pense que j'ai fait à peu près le tour des questions que je m'étais notées. Est-ce que toi tu vois quelque chose à rajouter ? Est-ce qu'il y a un point que tu voudrais aborder en particulier, qu'on n'aurait pas abordé ?
Je crois que là, j'ai envie de dire d'observer son bébé, c'est la chose la plus importante. J'en ai beaucoup parlé, mais c'est vrai que le fait de l'observer, ça va vous permettre de mieux le comprendre. Et une fois qu'on l'a observé et qu'on trouve des choses qui sont pas forcément faciles à comprendre, il faut essayer de chercher du côté des développements moteurs. Par exemple, si on voit que pendant il y a une phase où c'est plus difficile au niveau du sommeil, on comprend pas, essayez de vous dire « Ah, qu'est-ce que mon bébé est en train d'acquérir en ce moment ? Est-ce qu'il commence à se tourner ? Est-ce qu'il commence à se mettre debout ? Est-ce qu'il n'y a pas une phase de développement moteur intense qui se profile ? Est-ce que ce n'est pas une poussée de croissance, par exemple, s'il se met à téter plus souvent pendant la nuit ? En général, les pics comme ça de croissance, ça dure quelques jours, voire une semaine. Il y a toujours une explication derrière. Soit elle est visible ou soit elle va arriver. Et parfois, c'est une poussée dentaire, par exemple, qui peut faire que les bébés sont un petit peu plus grincheux pendant un certain temps. Il faut pas hésiter à essayer d'observer voilà, tous les facteurs aussi environnementaux qui peuvent arriver. Et si vous sentez que vous n'avez pas la solution et que c'est trop difficile, et ben, demandez de l'aide à des spécialistes.
Oui, n'hésitez pas à consulter.
Exactement, parce que c'est comme tout, l'alimentation, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Et ben, les bébés ont des besoins nutritifs spécifiques en fonction des âges. Et ben, pour le sommeil, c'est la même chose. Les besoins du sommeil évoluent en fonction des âges et c'est important de les connaître pour répondre vraiment aux besoins de son enfant.
Combien ça coûte à peu près un accompagnement ?
Alors, l'accompagnement, en tout cas, que je propose, il dure 2 semaines. Donc, par exemple, pour la tranche d'âge 4 à 18 mois, c'est 360 € pour les 2 semaines. Et là, on a une évaluation par questionnaire avec un plan de sommeil qui est personnalisé, détaillé, 1 heure de consultation, plus 2 semaines d'accompagnement avec des appels téléphoniques réguliers et du suivi au quotidien.
Ok, ça marche. Donc oui, c'est quand même un budget. Mais franchement, si ça peut vous sauver 6 mois de nuit, ça vaut le coup.
Ah, mais c'est sûr que je n'ai pas connu un seul parent qui ait regretté l'investissement parce que oui, c'est évidemment un investissement financier, mais vous investissez dans le bien-être de la famille, pour votre enfant,
mais pour toute la famille. Ok, ça marche. Ben écoute, merci beaucoup.
Merci à toi, Charline. C'était un plaisir.
Cet épisode touche à sa fin. Vous l'aurez compris, Sandra conseille avant tout d'observer et d'accompagner en douceur les bébés vers l'autonomie. Et si vous vous sentez à bout, comme nous l'a dit Elodie Arnoux dans le premier hors-série, n'hésitez pas à vous faire aider car le manque de sommeil est sûrement le plus difficile dans la parentalité. Vous pouvez retrouver les accompagnements proposés par Sandra sur son site internet www.lanuitdespetits.com. Je vous mets le lien dans les notes descriptives de l'épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous, à vos amis qui pourraient être intéressés sur vos réseaux sociaux. Parlez-en également à votre sage-femme, votre médecin généraliste, votre pédiatre ou tout autre professionnel qui vous accompagne afin qu'à leur tour, ils puissent en parler à d'autres parents. Si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux et que vous souhaitez recevoir une notification à la sortie des nouveaux épisodes, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse parentinformé@gmail.com. Vous pouvez retrouver tous les épisodes ainsi que leurs notes classées par âge et par catégorie sur le site internet www.parentinformé.fr. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.